Radio Okapi. Le journal Blaise Chindani Kabala.
Symbole de la souveraineté aérienne nationale, Congo Airways traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. À l'aéroport international de Njili, les appareils de la compagnie restent immobilisés au sol. Lancée en 2015 avec une flotte de 4 avions, la compagnie nationale ne dispose aujourd'hui d'aucun appareil opérationnel. Comment en est-on arrivé à cette situation? La réponse dans un instant. Direction ensuite le Nord Kivu où une assistance humanitaire vient d'être apporté à des milliers de déplacés à l'Lubero Centre. Plus de 6000 ménages ont reçu des articles ménagers essentiels dans le cadre d'une opération menée par la Croix-Rouge de la RDC avec l'appui de l'UNICEF. Au Nord Kivu et en Ituri, la lutte contre Ebola ne se limite pas aux défis sanitaires. Les équipes de riposte doivent également faire face à la méfiance de certaines communautés et à la propagation des fausses informations qui compliquent les efforts de lutte contre l'épidémie. Comment renforcer la confiance des populations et faire barrage à la désinformation? Nous en parlons avec notre invité André-Michel Essungu, expert en lutte contre la désinformation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parlé du matin. Congo Airways traverse une zone de forte turbulence. La compagnie aérienne nationale ne dispose aujourd'hui d'aucun avion opérationnel. À l'aéroport international d'Njili, sa flotte est entièrement immobilisée au sol. Comment cette entreprise, créée pour incarner les ambitions aériennes de la RDC, en est-elle arrivée à cette situation? Élément de réponse dans cette investigation d'Askin Zigba Tayoro.
À l'aéroport d'Njili où des avions auraient dû s'y lancer, ils sont là, immobilisés. La flotte propre de Congo Airways est à l'arrêt. Créée en 2015 avec 4 appareils, la compagnie n'en possède aujourd'hui aucun capable de voler. Un avion Embraer financé par la Caisse nationale de sécurité sociale pour Congo Airways n'est pas exploité en raison d'une combinaison de problèmes opérationnels, financiers et de gestion qui paralysent la compagnie. Selon certaines indiscrétions évoquées au sein de la dite compagnie, cet appareil reste cloué au sol car Congo Airways ne dispose pas de pilotes formés pour ce type d'avion ni de la documentation technique et des pièces de rechange nécessaires à son entretien et à son exploitation. Autre blocage, tous ces avions ne volent pas faute de maintenance. En outre, les agents se plaignent des cumuls d'importantes dettes et des arriérés de salaire. Une enquête officielle a pointé de graves dysfonctionnements administratifs et financiers au sein de l'entreprise exposant l'État à des risques. Congo Airways confirme avoir lancé en janvier 2026 un recrutement de pilotes et techniciens spécifiquement pour cet Embraer E190 qui devrait être l'un des premiers appareils à redémarrer. Contacté, l'administrateur délégué général de la compagnie dit être confiant de la reprise prochaine de vol. Mais alors une reprise conditionnée au règlement des problèmes auxquels fait face Congo Airways.
Au Sud Kivu, se déplacer dans plusieurs quartiers de Bukavu devient un véritable casse-tête. La circulation des véhicules et des motos est de plus en plus difficile en raison de la dégradation avancée de nombreuses routes urbaines, conséquence du manque d'entretien de la voirie. Les forces vives locales alertent sur les répercussions de cette situation qui ralentit la mobilité des habitants et accroît les risques d'accidents dans cette ville sous contrôle du M23 depuis 2025. Les détails avec Ronéline Tibonera.
La route reliant la place de l'indépendance à Chiriri, dans la commune de Kadutu, figure parmi les axes les plus délabrés. Chauffeurs de bus, mototaximens et piétons se disputent les trottoirs afin d'éviter de tomber dans de nombreux nids de poules qui jonchent la chaussée. Une situation similaire est observée sur les tronçons Kansayo-Cimetière dans la commune d'Ibanda ainsi que l'axe Essence Maria Kachelewa. Selon la société civile, ces dégradations affectent la mobilité des habitants et contribuent à l'augmentation des accidents. L'un des membres appelle à la réhabilitation de ces infrastructures pour permettre aux habitants de vaquer à leurs occupations. Notons qu'une situation comparable est vécue sur la route nationale numéro 2 dans les territoires de Mwenga. L'axe Kalambi-Luino, dont la réhabilitation avait été annoncée avant d'être suspendue au 31 juillet, mérite également une attention particulière, notamment entre Mwenga et Kamituga au sud Kivu.
Après Bukavu, cap sur le territoire de Beni au Nord Kivu. Là aussi, l'état des infrastructures routières préoccupe les populations. Les usagers de la route Iringeti-Kainama dénoncent les délabrements avancés de cet important axe de desserte agricole reliant les territoires de Beni et d'Irumu. Face aux difficultés de circulation et à leurs conséquences sur les activités économiques, les habitants réclament une intervention urgente des autorités. Les reportages de Marc Marofimbo.
Longue d'environ 45 km, la route Iringeti-Kainama est aujourd'hui devenue un véritable calvaire pour ses usagers. Depuis les fortes pluies enregistrées en juillet dernier dans cette région forestière, plusieurs tronçons se sont fortement dégradés, rendant la circulation particulièrement difficile. Conséquence, les véhicules assurant les transports de produits agricoles ou du bois vers Iringeti ou Beni fréquentent de moins en moins cet axe. Même les motocyclistes éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre le centre commercial de Kainama. Pourtant, cette route révèle une importance capitale pour la région. Sur le plan sanitaire, elle facilite l'évacuation des malades vers les structures des santé d'Eringeti, de Hicha ou de Beni. Sur le plan sécuritaire, elle permet aux forces de défense et de sécurité d'accéder plus facilement à cette zone souvent exposée aux menaces des rebelles ADF et d'autres groupes armés locaux. Au niveau économique, cet axe constitue également une voie essentielle pour les échanges commerciaux entre le territoire de Beni et le centre commercial de Boga dans le sud du territoire d'Irumu en province de l'Ituri. Face à cette situation, les usagers plaident pour une réhabilitation urgente de la route afin de désenclaver la région et de relancer les activités socio-économiques. Nous n'avons pas obtenu la réaction de l'entreprise attributaire des travaux sur cet axe routier. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu où une assistance humanitaire vient d'être apportée à des milliers de ménages déplacés à Lubero Centre. Plus de 6000 familles ont reçu des articles ménagers essentiels à l'issue d'une opération de distribution organisée pendant une semaine par la Croix-Rouge de la RDC avec l'appui de l'UNICEF. Cette aide est destinée notamment aux populations ayant fui les violences des ADF ainsi que l'occupation de certaines localités par l'FCM23. Les précisions avec Martial Papimoukeba.
Couvertures, bâches, ustensiles de cuisine et kits de dignité pour les femmes. Cette assistance doit répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées. La majorité des bénéficiaires ont fui pour certains depuis plus de 2 ans les attaques des ADF dans les secteurs de Bapéré ainsi que l'occupation par l'AFCM23 de certaines localités du sud du territoire des Lubero. Selon Mboussa Kizito, président de la Croix-Rouge au Nord Kivu, cette aide vise notamment à améliorer les conditions d'accueil des déplacés.
C'est soulager tant soit peu les déplacés internes qui sont dans cette partie. Beaucoup de déplacés ont accusé les problèmes des conditions d'accueil. Dans les ménages, il n'y a pas de lit, d'ustensiles, de cuisine. Ils ont aussi accusé des problèmes d'hygiène intime. Et dans cette assistance, on a prévu des kits d'hygiène intime pour les femmes et pour les adolescentes. Les besoins sont grands au point que nous avons un chiffre, mais quand on arrive sur le terrain, on trouve que le chiffre est peut-être sous-estimé.
La commune rurale de Lubero accueille des milliers de déplacés hébergés dans des écoles, des familles d'accueil et des sites de déplacés. Selon les acteurs humanitaires locaux, leurs besoins restaient importants. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Direction le Congo central où le projet de modernisation du marché sud de Matadi suscite de vives inquiétudes. Dans la commune de Mvunzi, commerçants et habitants dénoncent l'abandon d'un chantier pourtant présenté comme essentiel pour l'amélioration du cadre des travaux des vendeurs et l'organisation des activités commerciales de la ville. Plus de 3 ans après le lancement des travaux, le projet est au point mort. Une situation qui alimente frustration et interrogation au sein de la population. Reportage d'Élise Kavira.
Le site qui abrite le marché sud ne donne pas l'impression d'un chantier dont la livraison est imminente. Derrière un portail de fortune en tôle se cache un projet à l'arrêt. À l'extérieur, quelques commerçants poursuivent leurs activités en plein air. Parmi eux, cette vendeuse qui affirme avoir placé beaucoup d'espoir dans ce projet de modernisation.
Un si grand marché, les travaux se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons si l'État reviendra un jour pour achever ces chantiers. En attendant, nous continuons à vendre en plein air car c'est ici que nous gagnons de quoi subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille.
Selon plusieurs habitants, ce n'est pas la première fois que les travaux de ces marchés connaissent un arrêt. Le marché sud avait déjà bénéficié d'une réhabilitation en 2008 avant le lancement en 2022 d'un nouveau projet de modernisation. Cette année encore, les autorités provinciales avaient promis la reprise du chantier.
Il y a quelques mois, le gouverneur était venu visiter les chantiers et nous avait promis que les les travaux allaient reprendre. Mais jusqu'à présent, rien ne s'y passe. Nous sommes toujours dans l'attente.
Contacté à ce sujet, le conseiller en communication du gouverneur indique que des études sont actuellement en cours afin d'évaluer le coût des travaux restants et de définir les modalités de réouverture du marché sud aux commerçants de Matadi. Matadi. Elis Kavira, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, les autorités de Mweneditu durcissent les temps contre les commerces exercés sur la voie publique. Les vendeurs installés le long de l'avenue du marché et aux abords de l'école Loignon sont appelés à rejoindre le marché central de la ville. Face au refus de certains commerçants, malgré plusieurs campagnes de sensibilisation, le maire Gérard Tshibanda Kabwe annonce l'application des mesures plus contraignantes. Les marchandises exposées sur la voie publique seront désormais saisies et remises à la prison centrale. Des détails dans ce reportage d'Esther Ndalafina.
L'avenue du marché est l'une des principales artères de Mweneditu. Elle croise la route nationale numéro 1 dans son tronçon qui traverse la ville ferroviaire et mène également vers l'aérodrome. Le long de cet axe stratégique, de nombreux commerçants ont installé des kiosques en tôle, en natte ou en matériaux de fortune afin d'y exercer leurs activités. De part et d'autre de la route, des installations forment un vaste couloir commercial où sont exposés des produits de toutes sortes au détriment de la circulation et de la sécurité des usagers. Pour le maire Gérard Tshibanda, cette occupation de la voie publique est injustifiée. Il souligne que plusieurs étalages restent inoccupés à l'intérieur du marché central où des espaces ont été mis gratuitement à la disposition des vendeurs.
On ne peut pas transformer une route en marché à l'intérieur du marché. On a donné même les places gratuitement.
Après plusieurs années de sensibilisation sans résultat probant, l'autorité urbaine entend désormais passer à une phase de répression. Les marchandises exposées sur la voie publique seront saisies et remises aux pensionnaires de la prison centrale. Il convient de rappeler que plusieurs vendeurs ont déjà perdu la vie dans des accidents de circulation survenus le long de ces routes très fréquentées. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Kolwezi, les Biongozi sont au cœur des préoccupations sécuritaires. Ces gangs de jeunes délinquants sont pointés du doigt pour une série d'actes de violence qui troublent la quiétude de plusieurs quartiers. Une situation qui pousse la population à demander un renforcement des mesures de sécurité et une réponse plus ferme des autorités. Reportage de Paulin Munanga.
Plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi demeurent sous l'emprise de ces gangs qui y imposent leurs lois. Il s'agit notamment des quartiers Kapata, Musonoi, Chabula, Kanina, Ewabora, Saba, 5 ans ainsi que de la cité Jekamine. Selon plusieurs témoins, ces jeunes circulent en groupe et opèrent principalement pendant la nuit. Ils se livrent à des actes de vandalisme, n'hésitant pas à saccager ou à incendier des habitations et des boutiques. Ils sont également accusés de vols et d'agressions contre les habitants. D'après des sources locales, ces délinquants se déplacent souvent munis d'armes blanches. Vendredi dernier, plusieurs maisons du quartier Chabula ont été la cible de cambriolages attribués à ces gangs. Une victime de l'un de ces cambriolages exprime son indignation. Je suis allé au travail et je n'ai rien trouvé dans ma maison qui a été visitée par des bandits. Je ne suis pas un chégué, mais regardez comment ils ont abîmé ma maison. Je suis un responsable. Je vais dormir où? Les postes téléviseurs, les chaises, les habits, la mousse, tout a été emporté. Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des autorités de Kolwezi. Les Biongozi, un mot swahili signifiant guide ou chef de file, seraient pour la plupart des créseurs artisanaux organisés en bande selon nos sources. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Avant de refermer ce chapitre consacré à l'actualité nationale, direction le Kasaï central, où l'émotion reste vive après le naufrage d'une pirogue sur la rivière Lulua. L'embarcation transportait une trentaine de passagers lorsqu'elle s'est renversée mercredi dernier dans le territoire de Demba. Le bilan provisoire fait état de 6 enfants morts. 3 corps ont déjà été repêchés, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les 3 autres victimes portées disparues. Face à ce drame, la société civile locale plaide pour des mesures de sécurisation de cette traversée régulière emprunté par les habitants. Les détails avec André Katendenga Lamouloumé.
Selon les dernières nouvelles, 30 personnes, en majorité des enfants, étaient tombées dans la rivière lorsque la pirogue s'était renversée. Des sources locales indiquent que 6 enfants sont morts dans l'eau et une vingtaine de personnes a réussi à rejoindre la rive à la nage ou étaient secourues par des pêcheurs. Parmi les 6 enfants morts dans l'eau, 3 ont été trouvés et inhumés, mais 3 autres sont toujours disparus. Ces enfants étaient allés à la cueillette des chenilles de l'autre côté de la rivière. Dans le village de Bakwamulambankanga, Les familles qui ont perdu leurs enfants sont toujours au bord de la rivière Louloua. Dans la tristesse et l'attente, elles espèrent retrouver les leurs portés disparus dans les eaux de cette rivière. Des pagayeurs sillonnent la rivière à bord de leurs pirogues. Des plongeurs sont également sous l'eau pour tenter de retrouver les corps. Marcel Massanka, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise territoire de Demba, appelle les autorités à renforcer la sécurité sur cette traversée où les cas de noyades sont fréquents. Selon lui, il faut construire un pont sur cette partie de la rivière, doter la population des bacs et des gilets de sauvetage pour éviter de nouveaux drames. Kananga, André Katendengala Mulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dernière ligne droite pour les candidats en lice à la présidentielle en Zambie. Les électeurs sont appelés à voter jeudi 13 août pour un scrutin serré qui oppose le président sortant Aikande Ichilema au leader de l'opposition Brian Mundubili.
L'invité.
La désinformation est-elle en train de compliquer davantage la lutte contre Ebola? Au Nord Kivu et à Ituri, les acteurs de la riposte doivent non seulement contenir l'épidémie, mais aussi faire face à la résistance de certaines communautés et à la propagation des rumeurs qui fragilisent les efforts de la santé publique. Pour comprendre les enjeux et les solutions possibles, Martial Papimukeba reçoit André-Michel Essungu, expert en lutte contre la désinformation.
André-Michel Essungu, bonjour.
Bonjour Martial.
Les attaques et les actes des résistances communautaires contre les équipes engagées dans la riposte à Ebola se multiplient dans certaines zones du Nord Kivu et de l'Ituri. Quel rôle la désinformation joue-t-elle dans ce climat de méfiance et de violence?
La désinformation agit comme un accélérateur de la peur et de la colère et elle transforme les agents de santé qui viennent protéger la population en personnes suspectes et des rumeurs peuvent donc présenter Ebola comme une invention politique, une opération destinée à obtenir des financements ou encore accuser les équipes médicales de propager volontairement la maladie. Ces récits trouvent un terrain favorable lorsque les populations ont déjà vécu l'insécurité, comme c'est le cas dans plusieurs régions de l'Est, qu'elles ont vécu une relative absence des services publics depuis très longtemps ou alors quand des interventions extérieures sont insuffisamment expliquées et donnent une justification à cette rumeur au refus des soins, à la dissimulation des malades ou aux attaques contre les centres sanitaires. Donc la désinformation n'est pas seulement un problème de communication, elle devient un véritable risque sanitaire et sécuritaire car chaque attaque ralentit, empêche la prise en charge.
Quelles sont les fausses informations qui circulent le plus souvent lors d'une épidémie comme Ebola et pourquoi parviennent-elles à convaincre une partie de la population?
Les rumeurs les plus fréquentes affirment qu'Ebola n'existe pas, que les chiffres sont inventés, que la maladie serait un empoisonnement ou que les équipes de riposte chercheraient à gagner de l'argent. D'autres fausses informations concernent les centres de traitement, les enterrements sécurisés ou les personnes guéries, parfois injustement présentées comme toujours et encore dangereuses. Ces récits convainquent parce qu'ils proposent des explications assez simples et plutôt émotionnelles à une maladie complexe et effrayante. Ils progressent également lorsque les informations arrivent tard ou alors sont trop techniques ou ne sont pas données dans les langues réellement parlées par les communautés. Et enfin, lorsqu'une institution n'est pas déjà, du point de vue des populations, digne de confiance, même une information scientifiquement correcte peut être rejetée. La confiance dépend donc autant du messager que du message.
Au-delà du démenti des fausses informations, quelles stratégies les autorités sanitaires, les médias et les leaders communautaires devraient-ils mettre en œuvre pour rétablir la confiance avec les populations?
Il faut déjà tenter de comprendre comment et par qui la désinformation circule au sein des communautés, quels canaux utilise-t-elle en ligne et hors ligne et quelles sont les techniques qui lui permettent de passer si facilement, poser un diagnostic. Du point de vue de l'action, il faut ensuite passer d'une communication souvent verticale et descendantes à une véritable conversation avec les communautés pour écouter leurs préoccupations et reconnaître des erreurs éventuelles et répondre rapidement aux questions. Les autorités devraient communiquer rapidement, régulièrement, dans un langage simple, en expliquant ce qui est connu, ce qui ne l'est pas et pourquoi certaines mesures sont nécessaires. Il faut se souvenir, par exemple, que dans le cas de la pandémie de la Covid, dans une ville comme New York qui était très affectée, le gouverneur de l'État de New York tenait tous les jours à midi un point de presse qui était le lieu de la diffusion de l'information informations officielles, crédibles, et c'était un rendez-vous quotidien pour tout le monde, et il y avait également d'autres manières de procéder. Les médias, quant à eux, doivent plus que jamais vérifier avant de diffuser, inviter des spécialistes capables de parler clairement, et éviter les titres alarmistes qui renforcent la peur. D'autres relais, mais plus que des relais, qui devraient être intégrés dans la réponse, sont les chefs coutumiers, les responsables religieux, les associations de femmes, de jeunes, des survivants et d'autres. Enfin, il faut, dans ces cas-ci, montrer des preuves concrètes, personnes guéries, de familles accompagnées, d'enterrements réalisés dignement et de mécanismes permettant de signaler des abus. La confiance se construit essentiellement pas la transparence dans la communication, mais dans l'action, la proximité et des actes cohérents.
Quel rôle les citoyens eux-mêmes peuvent-ils jouer pour freiner la propagation de la désinformation et contribuer à protéger les équipes de la riposte?
Ne pas partager une information qui provoque la peur ou la colère. Chacun peut se demander et peut demander à quiconque diffuse des nouvelles qui n'ont pas l'air très crédibles qui est la source. Cette information est-elle confirmée et pourrait-elle mettre quelqu'un en danger? C'est trois questions toutes simples. Et les citoyens peuvent aussi signaler rapidement les symptômes ou les décès suspects, coopérer dans le suivi des contacts et éviter de cacher une personne malade par peur de stigmatisation.
André Michel Essungu, merci.
C'est notre invité André Michel Essungu, expert en lutte contre la désinformation, qui s'entretenait avec notre confrère Martial Papimoukeba. Voilà qui met fin à ce journal parlé de ce matin, préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.